Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Ceux qui me connaissent savent que j'ai les cheveux très longs, que je me promène assez souvent avec des plumes dans les cheveux ou à l'oreille ou sur mon chapeau. Et il y a ça une bonne raison, c'est que j'ai toujours été du côté des Indiens. Vous savez, les Sioux, les Cheyennes, enfin, ces Indiens-là, quoi. Alors, j'ai décidé de faire une petite série d'émissions sur nos amis les Indiens. Lorsqu'un bébé Cheyenne poussait son premier cri et ouvrait ses petits yeux sombres sur le monde, il affrontait un schéma bien ordonné de relations humaines, d'institutions et de valeurs. Cet univers Cheyenne était conçu pour assurer la survie de la tribu et pour lui apporter, sans garantie d'ailleurs, une existence satisfaisante depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Pendant les mois qui précédaient l'accouchement, la mère respectait un certain nombre de tabous. Elle évitait, par exemple, de fixer trop longuement une personne insolite, un animal ou un objet inhabituel, de peur que son enfant n'en fût affecté. Elle se pliait à des pratiques avec lesquelles un gynécologue moderne serait d'accord. Elle se levait chaque matin avant le soleil et faisait une promenade. Ce faisant, elle obéissait à des raisons qui n'avaient rien de scientifique, car elle croyait que les enfants grandissaient mieux à l'aube et que marcher les aidait à croître. L'accouchement avait lieu dans un tipi spécial de petite dimension, mais se déroulait plus fréquemment dans le cadre de la tente familiale. Une ou deux vieilles femmes, sages-femmes, y assistaient, ainsi d'ailleurs que les parentes de la parturiente. Celles-ci s'agenouillaient sur une peau de bison recouverte de foin et saisissaient d'une poigne ferme le poteau planté devant elles. Un homme médecine se tenait parfois à proximité et récitait des prières, tout en secouant un hochet. Pour provoquer l'expulsion du placenta, la sage-femme chatouillait la gorge de l'accouchée avec une plume ou du bout des doigts. La délivrance était alors mise dans un sac qu'on transportait à l'extérieur et qu'on suspendait à la branche d'un arbre. L'enterré aurait provoqué, d'après la croyance des Cheyennes, la mort du nouveau-né. Les femmes enduisaient de graisse la peau du bébé et poudraient ce dernier en se servant de bouses de bison séchées et finement hachées. On utilisait aussi de la pulpe de peuplier pourri ou des spores séchées de lycoperdron, une poudre particulièrement appréciée pour cicatriser le nombril. Par la suite, lorsque le cordon se détachait, la mère le cousait dans un sac auquel on donnait la forme d'une tortue ou d'un lézard. et cet objet était attaché autour du cou de l'enfant ou à ses vêtements en guise de fétiche, comme garantie de longévité. Dans les jours qui précédaient l'accouchement, le père adoptait un comportement qui, en d'autres temps, et pour un Cheyenne, eût manqué de virilité. Il transportait l'eau et le bois du foyer et passait son temps à se soucier de la naissance future. La tribu chérissait les enfants, et en particulier les garçons qui représentaient de futurs guerriers. La chasse et la guerre étant des activités dangereuses, en règle générale, les femmes surpassaient les hommes en nombre. Mais tous les enfants étaient les bienvenus. Et fréquemment, lorsque le père apprenait la naissance, il tirait au fusil pour fêter l'événement. Un parent âgé du père, le grand-père, l'oncle ou la tante choisissaient généralement le nom du nouveau-né. Un animal ou une particularité physique servait souvent à donner un garçon en ajoutant à ce nom le mot explicatif ou une phrase, comme grand taureau, loup tacheté, petit faucon, cheveux gris emmêlés. Le nom d'une fille comprenait presque toujours le mot « femme ». Femme hibou, femme jeune bison qui suit la route, femme petite crique. Les surnoms étaient communément employés, tant pour les garçons que pour les filles, jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Ainsi, appelait-on souvent un garçon « Moxoy » et une fille « Moxis ». C'est des mots qui signifiaient « gros ventre ». Quelques semaines après avoir accouché, la mère attachait son bébé dans un cadre, une armature de bois garnie d'une enveloppe en peau très douce qui était portée sur le dos. Le berceau sur cadre était un objet aux possibilités variées. On pouvait l'accrocher à une selle ou l'amarrer à un travois. On le suspendait à l'intérieur du tipi. Et si la femme était appelée à travailler à l'extérieur, on l'inclinait contre la tente. Dans toutes ces positions, ce berceau avait un avantage sur le landau ou le petit lit utilisé par la femme blanche. Bien avant de pouvoir s'asseoir, le jeune Indien adoptait déjà la position debout et voyait ainsi les allées et venues des gens. Même lorsque l'enfant ne se trouvait pas dans son berceau, son corps était à la verticale, car sa mère le portait sur son dos à l'aide d'une couverture passée en écharpe. Il dominait alors légèrement sa tête. Une femme donnait à sa progéniture beaucoup d'affection et de nombreuses caresses. Elle lui permettait de se nourrir à sa convenance. Les enfants Cheyennes prenaient le sein pendant 4 ou 5 ans. Leur éducation, toutefois, comportait un élément traumatisant. Ils n'avaient pas le droit de pleurer. Dans cette tribu, on estimait que les cris et les pleurs étaient à tout moment antisociaux. Et de plus, ils pouvaient révéler à l'ennemi l'emplacement d'un campement. Si un jeune enfant continuait à pleurer après que sa mère eût assouvi ses besoins, elle le portait alors de la tente et accrochait son berceau à quelques buissons pour qu'il puisse égosiller tout son sou. Et une fois le bambin apaisé, sa mère le ramenait au sein de la famille. Il suffisait de quelques expériences de ce genre et l'enfant apprenait vite que pleurer était inutile. De la sorte, le nouveau-né se familiarisait avec la notion indienne qui voulait qu'il que l'on fût toujours maître de soi. La tribu menait une vie difficile, vie à laquelle l'enfant prenait vite part. D'ailleurs, il vivait presque exclusivement à cheval. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, le jeune Cheyenne chevauchait avec sa mère, à moins qu'il ne fût attaché en selle sur une monture assez douce. Le père de l'enfant, un oncle ou éventuellement son grand-père, lui donnait son premier cheval. Et il ne tardait pas à devenir un bon cavalier, capable de participer à la garde des chevaux. Vers le même âge, les fillettes aidaient leur mère à déterrer les racines et à transporter l'eau et le bois nécessaires au foyer. Les enfants Cheyenne devenaient vite aguerris aux choses de la nature, supportant en été les voyages sous le soleil de la prairie, ou jouant et travaillant dehors en plein hiver. Un habitant de la frontière, un certain Jacob Flower, remarqua que des enfants indiens jouaient sur la glace du cours supérieur de l'Arkansas pendant l'hiver 1821. Il y avait là un mélange d'enfants Comanches, Kiowas, Cheyennes et Arapahos, car à l'époque, ces 4 tribus connaissaient une paix relative. Bien que possédant très mal l'anglais écrit, Flower était un observateur sagace. À présent, nota-t-il, il fait froid. La rivière est prise. L'épaisseur de la glace devint considérable. Les enfants indiens, en âge de marcher, et même les enfants plus grands, jouent sur la glace dès l'aube, tous d'ailleurs aussi nus que le jour de leur venue au monde. Ici, il y a toutes sortes de sports et d'activités qu'ils sont capables d'endurer. Et bien que le gel soit très rude, ils n'ont apparemment pas froid, mais me semblent aussi réchauffés que ceux que j'ai vus évoluer au milieu de l'été. Je suis sûr que plus d'un millier de ces enfants étaient présents sur la glace. Et ceux qui ne savaient pas encore marcher étaient pris en charge par les plus grands, qui les installaient sur des morceaux de peau posés à même la glace. Dans cette situation, le marmot donne des coups de pied et pousse des cris et des éclats de rire à destination de ceux qui jouent autour de lui. Je doute que nos enfants, mis dans une pareille situation, puissent résister plus d'une demi-heure. Flower ne faisait pas de distinction entre les enfants appartenant à des tribus différentes. Il est peu probable qu'il ait vu des Cheyennes de plus de 2 ou 3 ans nus, car sur ce point, les Indiens de cette tribu se montraient très stricts. Les parents et les gens âgés corrigeaient rarement les enfants. Ils les exhortaient continuellement à être chastes et vertueux, mais aussi à faire preuve de gravité, d'honnêteté, de modestie, d'activité et de générosité de façon à se forger une personnalité et à ne pas devenir l'objet des sarcasmes des gens de la tribu. Comme on le voit, l'éducation menait directement au mode de vie adopté par la suite. En tant qu'adulte, le Cheyenne mesurait sa valeur à l'approbation de ses congénères et il haïssait par-dessus tout l'idée qu'il pût mériter leur critique ou leur mépris. Pour la plupart, les jeux de l'enfance étaient en quelque sorte une réplique de la vie tribale. Les petites filles jouaient avec des tipis en miniature et des poupées en peau de cerf qu'elles couchaient dans des répliques de berceau. Les jeunes garçons, eux, arboraient de petits arcs munis de flèches. Un peu plus âgés, garçons et filles jouaient à dresser des campements en alignant des petites tentes et fondaient des foyers imaginaires. Les garçons s'élançaient dans les raids ou des chasses fictives. Il faisait des captifs pour rire et comptait les coups marqués, comme les adultes. Chevauchant des bâtons en guise de chevaux, il s'élançait contre des bisons représentés par des garçons portant des palettes de figuier de Barbarie sur des bâtons. La flèche qui atteignait l'endroit marqué sur la palette représentait une mise à mort. Le jeune garçon qui jouait le bison se laissait tomber sur le sol pour mourir. Que la flèche manquât son objectif et l'animal devenu fou furieux chargeait. Il arrivait alors que le chasseur reçut sur le derrière des grands coups de cactus. Parfois, les garçons attrapaient des poissons, tuaient des oiseaux ou des lapins et les ramenaient pour que les filles les cuisent. Les jeunes aimaient aussi se trouver en présence de leurs aînés. Puisant dans les mythes relatifs à la tribu et dans le folklore, les grands-pères passaient des heures à conter des histoires à leurs petits-enfants. Mais vers l'âge de 13 ans, garçons et filles n'avaient plus le droit de jouer ensemble. L'heure avait sonné pour que la tribu préparât ses jouvenceaux à remplir leur fonction d'adulte. À 12 ou 14 ans, un garçon participait à une vraie chasse. Lorsqu'il avait tué son premier bison, et il s'agissait en principe d'un jeune veau, sa famille le félicitait chaudement. Son père l'annonçait dans le camp et s'il était assez riche, il offrait un cheval à l'un des Indiens pauvres de la tribu. Éventuellement, il invitait quelques nécessiteux à festoyer en sa compagnie. Encore adolescent, le garçon était intégré dans le parti de guerre où figurait son père ou son oncle. Il rendait service aux guerriers en assumant certaines corvées comme le ramassage du bois ou la garde des chevaux. Il était alors traité avec respect par les hommes de la tribu, plus d'ailleurs comme une mascotte que comme un serviteur. Au cours de cette expédition, l'adolescent voyait les guerriers en action et était félicité à l'accomplissement du moindre acte qui était digne d'un homme. À l'âge de la puberté, les garçons Cheyenne n'étaient soumis à aucun rite de passage, mais voyant les aînés respectés, chaque adolescent attendait avec impatience l'heure d'accomplir une prouesse qui put paraître importante. Lorsqu'un garçon avait tué un bison ou participé à une expédition guerrière, il prenait une attitude d'homme, même s'il avait encore beaucoup à apprendre. Avec les camarades de son âge, il participait même à des jeux extrêmement dur. Les jeunes Sioux pratiquaient des loisirs typiques des Indiens des plaines qui développaient la résistance physique et la vaillance. La partie de coups de pied et de grands moulinets voyait s'aligner deux rangées d'adolescents, chacun portant une peau de bison enroulée autour du bras gauche en guise de bouclier. L'un d'eux jetait alors la question rituelle. « Va-t-on les attraper par les cheveux et les faire saigner à grands coups de genoux en plein visage ?» Et aussitôt, les deux groupes se ruaient l'un sur l'autre et chacun essayait de jeter son adversaire au sol à coups de pied. Il n'existait guère de règles. Un garçon pouvait être attaqué par deux autres. Le but consistait à se protéger avec son bouclier et à jeter quelqu'un à terre. Une fois au sol, et à moins d'être défendu par ses camarades, le garçon était saisi par les cheveux et recevait des coups de genoux en plein visage jusqu'à ce qu'il saignait. Dès lors, il avait le droit de se relever et de riposter. Le jeu se poursuivait tant qu'une des équipes ne battait pas en retraite, ou bien le combat cessait, faute de combattants. Parmi les jeux des Sioux, je vais vous parler d'un qui consistait à jeter du feu. Les deux équipes allumaient des feux à environ 50 mètres de distance. Chaque participant ramassait des brandons et les deux camps s'avançaient l'un contre l'autre en jetant des morceaux de bois enflammés ou en s'en servant comme d'un casse-tête. Au milieu de ce déluge d'étincelles et de volutes de fumée, il fallait amener l'adversaire à fuir, puis encercler son feu. En combat rapproché, racontait un vieux Sioux, quand votre torche a frappé l'ennemi une ou deux fois, elle s'éteint. On en prend alors son lot jusqu'à ce que, à son tour, le brandon de l'adversaire ne soit plus qu'un bâton fumant. Les filles du même âge avaient leur jeu, passionnant certes, mais moins rude. Les jeunes Cheyennes s'amusaient à lancer en l'air à coups de pied une balle en peau, bourrée de poils d'antiblope, et à la relancer à plusieurs reprises sans jamais lui faire toucher le sol. Les jeunes filles Sioux pratiquaient une sorte de hockey, utilisant une crosse pour frapper une balle en direction des buts adverses. Aux Indiennes des Plaines, on apprenait à ne pas rôder dans le campement. Et plus elles avançaient en âge, plus elles restaient près de leur demeure. Elles ne sortaient qu'accompagnées. On leur enseignait la manière de fabriquer et de décorer des mocassins, de coudre et d'exécuter des ouvrages en perles. Elles apprenaient l'art de la cuisine et, ultime science qu'elles maîtrisaient avant le mariage, le tannage et la préparation des peaux de bison et autres animaux de chasse. Le rite de la puberté chez la fille Cheyenne était l'occasion d'une cérémonie rituelle. À sa première menstruation, le père annonçait au campement que sa fille était femme. Les Indiens n'utilisaient pas le mot squaw pour désigner une femme, simple déformation par les Blancs d'un terme usité par les tribus de la côte orientale. Si le père était assez riche, il donnait éventuellement un cheval. La jeune fille défaisait ses nattes et se baignait, puis des femmes plus âgées peignaient son corps en rouge. La fille, devenue femme, revêtait alors une robe et s'asseyait près d'un feu. Un tison du feu était saupoudré de glycérine, d'aiguilles de genièvre et de sauge blanche. Et la jeune fille se plaçait au-dessus pour que la fumée passe sous sa robe de peau et enveloppe son corps. Elle se retirait ensuite dans une loge spéciale réservée aux femmes ayant leurs règles. Sa grand-mère veillait sur elle et la conseillait sur la conduite qu'une femme devait adopter. Et finalement, la jeune fille se purifiait en passant une deuxième fois dans la fumée avant de regagner son tipi. La chasteté des femmes Cheyennes était proverbiale. Celles qui n'avaient pas encore trouvé d'époux portaient habituellement une ceinture de chasteté en peau ou en corde, nouée par devant et enroulée autour des cuisses. Une Cheyenne nous a laissé un compte-rendu détaillé de la période où elle n'était que jeune fille, et de la cour qu'on lui faisait, et de son mariage. Dès que son premier prétendant eut levé les yeux sur elle, sa tante lui donna ses conseils. Il serait stupide d'échanger trop de sourires et de regards avec ce jeune homme, surtout en présence d'un tiers. Il te croirait trop facile et donc immoral. S'il vient te voir la nuit, tu ne dois pas t'enfuir en courant. Si tu le fais, il pensera que tu es bête et que tu n'as pas reçu une éducation suffisante pour repousser les avances d'un prétendant. Même s'il est très beau garçon, tu ne consentiras pas à l'épouser et à sa première requête. Dis-lui que tu veux bien le rencontrer en ami durant un temps indéterminé. S'il a quelque estime pour toi, il n'en sera pas découragé et continuera à te fréquenter. Lorsqu'il te rend visite la nuit, demande-lui de ne pas s'attarder et prie-le de s'en aller. Si tu le laisses rester tant qu'il en a envie, il te croira amoureuse et il t'en estimera moins. Prends bien soin de nouer la peau. C'était le nom de la chasseuse de sainteté. Rappelle-toi que si un homme touche ta poitrine, il en conclut que tu lui appartiens. S'il ne tient pas à t'épouser, il le dira aux autres et ta réputation en souffrira. Tu n'auras plus le loisir d'épouser un homme de bonne famille. En bref, tu ne seras plus courtisé par aucun jeune homme, ce qui est pourtant le désir légitime de toute jeune fille. La jeune Cheyenne médita ses conseils, mais n'eut guère le temps de les appliquer. À peine sa tante lui avait-elle adressé ce discours, qu'un vieil homme d'un clan voisin vient trouver son père, proposant pour époux un jeune homme de sa famille. Elle ne connaissait pas le prétendant, mais après avoir réfléchi, son père donna son consentement. Le lendemain, 5 beaux chevaux de sel et d'autres marchandises prenaient le chemin de la demeure de la jeune fille. Les hommes de la famille l'encourageaient à dire oui. Entre autres arguments, il prétendait que son père vieillissait.
« Sa vue n'est plus très bonne, et ce jeune homme prendra en charge tout ce que ton père ne pourra plus assumer. Toutefois, nous ne tenons pas à te voir prendre une décision qui ne soit pas à ton gré. »
La jeune fille était indécise.
« J'aime mon père, dit-elle, et ce qu'il décidera, je l'exécuterai. »
Ses parents acceptèrent les 5 chevaux et en retournèrent 5 autres en échange. Elle prit place sur une de ses montures et se rendit au campement de son futur époux. Les jeunes femmes de la famille du garçon vinrent à sa rencontre et la placèrent sur une couverture, la soulevèrent et la portèrent jusqu'au tipi du prétendant. Elle y pénétra et s'assit auprès du jeune homme. Les femmes arrivèrent, les bras chargés de robes, de châles, de bagues, de bracelets, de jambières et de mocassins. Elles s'employèrent ensuite à l'habiller avec splendeur, lui nattant les cheveux, et mettant des touches de rouge sur ses joues. Peu après, elle regagna son campement où sa mère et ses tantes avaient préparé le festin de noces et dressé un nouveau tipi pour le jeune couple. La famille du garçon conta des histoires drôles et narra des exploits guerriers. Puis elle s'en retourna, laissant les jeunes mariés dans leur nouvelle demeure. Au bout d'un an, la femme accouchait. Évoquant ses souvenirs, elle dit « C'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment aimé mon mari et il m'a toujours traité avec respect et bonté. » La cérémonie du mariage type et les Seyennes procédait moins d'une explosion d'amour que d'une alliance entre familles. Sans doute, la jeune fille, issue elle-même d'une bonne famille, reçut-elle de par son mariage une certaine promotion sociale. Habituellement, les jeunes gens se faisaient la cour pendant 4, voire 5, voire même 6 ans. Et en règle générale, la fille pouvait exercer son choix mieux que le garçon. Le plus souvent, le prétendant avait une tâche plus difficile s'il voulait mériter sa compagne. Un jeune homme attendait non loin de l'endroit où il pouvait voir passer sa bien-aimée et son espoir était de glaner un sourire ou quelques mots. De plus en plus audacieux, il se présentait au seuil de sa demeure et il lui parlait de n'importe quoi, sauf d'amour. Si tout allait bien, ils échangeaient éventuellement des bagues en corne ou en métal,
véritable promesse de mariage. Cependant, il était rare qu'une jeune fille prît un tel engagement à l'égard d'un homme qui n'avait pas fait la guerre. Jusqu'à ce stade important, on ne voyait en lui qu'un simple adolescent. Lorsqu'ils étaient seuls dans la prairie, les jeunes gens occupés à effectuer des reconnaissances, à voyager ou à escorter des chevaux, adressaient des chansons à l'élu de leur cœur. Des chansons qui disaient « Mon amour, c'est moi qui chante, m'entends-tu ? » Ils improvisaient des suppliques. « Mon amour, sors de ta demeure, je te cherche. Mon amour, viens dans la prairie pour que je puisse m'approcher et te rencontrer. » Jouer de la flûte était censé faire fondre le cœur de n'importe quelle fille. Et l'on disait même que certaines flûtes, enchantées, arrivaient à jeter un sort aux filles rebelles. Les hommes Medicine Sioux étaient spécialisés dans la production de ces flûtes magiques. Il s'agissait des deux moitiés d'une tige de cèdre, évidée, ligaturée et collée l'une sur l'autre. On aménageait 5 trous pour les doigts et un évent qui pouvait être bouché à l'aide d'une pièce de bois mobile, sculptée en forme de tête de cheval. L'homme médecine confectionnait la flûte, mais composait aussi l'air. Il vendait l'ensemble aux jeunes soupirants en leur garantissant qu'aucune fille ne saurait résister à ce charme, à condition, toutefois, que la musique fût bien jouée. Et par les chaudes nuits d'été, on pouvait entendre les flûtes des amoureux qui, tapis dans les broussailles, non loin de l'habitation de la jeune fille, lançaient leur chant plaintif et érotique. Pour faire leur cours, les Sioux employaient une méthode clairement définie. Un garçon allait à la rencontre d'une fille devant son tipi, s'enveloppait avec elle dans une peau de bison et, en présence de sa famille, voire des frères et des sœurs dévorés de curiosité, il l'embrassait et tous deux échangeaient des mots d'amour. Au cours d'une agréable soirée, il se pouvait qu'une fille assez admirée reçut plusieurs soupirants qui chacun attendait son tour. Si elle n'aimait pas le garçon, elle refusait de se laisser embrasser sous la couverture en peau et pouvait s'en dégager à tout moment. Et bien que surveillé, le jeune garçon parvenait donc à courtiser sa belle en toute liberté. Parmi toutes les tribus des plaines et chez certains voisins, comme les Apaches, offrir des chevaux était une méthode universelle pour demander une jeune fille en mariage. Respectueux des formalités, le soupirant envoyait les chevaux au logis de celle qu'il courtisait et chargeait un parent ou un ami de transmettre la demande officielle en mariage. Lorsqu'elle souhaitait conduire l'intéressé, la jeune fille renvoyait les chevaux ou se contentait d'ignorer leur présence. Par contre, en cas d'acceptation, elle les emmenait boire ou les intégrait au troupeau paternel. En fait, il s'agissait là d'une simple formalité. Si la jeune fille avait réellement le choix, le prétendant savait très bien à l'avance si elle allait accepter ou non. Si au contraire, le mariage résultait d'un arrangement, les deux familles en avaient discuté en tous les termes auparavant. Donc, c'était effectivement une formalité. La cérémonie proprement dite, qui impliquait toujours un grand festin, se déroulait un jour ou deux plus tard. L'épouse partait alors officiellement de chez elle et rejoignait la demeure de son mari, non sans apporter des chevaux ou d'autres cadeaux d'une valeur égale au bien qu'il lui avait offert. L'Indien des plaines était le chef de son foyer. Il vivait dans une société à prédominance masculine et parfois il traitait sa femme en sujet d'une façon cruelle et inhumaine. En cas d'infidélité, on coupait le nez de la fautive. Malgré la domination de l'homme, les Indiennes des plaines connaissaient une vie pleine de satisfaction et de fierté. Le rapport entre le nombre des femmes et celui des hommes constituait un problème crucial. Beaucoup d'hommes tombaient à la chasse ou à la guerre. Le mariage plural résultait du surnombre des femmes. Une société de quelques centaines, voire de quelques milliers d'individus, se considérait comme formant un peuple. Mais cette société était toujours menacée d'extinction et adoptait éventuellement l'institution de la polygamie. Une femme en âge d'avoir des enfants devait-elle se passer d'un époux sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'hommes ? Le fait que ces femmes nourrissaient leurs enfants parfois durant 5 ans et s'abstenaient d'avoir des rapports pendant cette période rendait ce régime matrimonial encore plus attirant. Certes, la polygamie était répandue, mais non universelle. Dans bien des cas, l'homme et la femme forgeaient leur propre destin sans avoir de relations sexuelles avec d'autres personnes. Parmi les Apaches, qui, comme les Cheyennes, étaient réputés pour la fidélité de leurs épouses, la polygamie ne prit jamais un grand essor. Certains vantaient ce régime, d'autres le désavouaient. Détail significatif, chez ces peuples qui savaient si bien se dominer et cacher leurs émotions, la lune de miel, le plus intime des moments d'amour entre deux êtres, prenait une grande importance. Après qu'un couple de jeunes Apaches avait suivi toutes les cérémonies rituelles, les mariés s'isolaient pendant une semaine ou davantage. Auparavant, le futur époux avait construit un refuge à plusieurs kilomètres du camp principal. Dans cette niche de verdure, cachée au milieu des arbres et tapissée de fleurs, mais garnie de provisions pour la durée du séjour, le couple passait sa lune de miel, sans prêter attention à quiconque, jusqu'à ce que sonna l'heure de reprendre la vie quotidienne. Plus tard, il se pouvait qu'une Indienne des plaines accueillit volontiers une nouvelle épouse dans le foyer, suggérant même à son mari de prendre une seconde femme. Les tâches féminines ne manquaient pas et si l'on pouvait partager la besogne avec quelqu'un de sympathique, il y avait lieu de s'en féliciter. L'homme épousait souvent la sœur de sa première femme et ce nouveau lien familial diminuait les tensions dues à la jalousie. Néanmoins, la première femme demeurait le chef de file de la maisonnée. Sans doute, chez les Cheyennes, aurait-il fallu attribuer le prix de l'homme possédant le plus grand nombre d'épouses à Coup Tordu, qui avait convolé en juste noces avec 5 femmes, toutes sœurs. Ayant accédé au rang de chef, Coup Tordu donna 3 épouses. Mais vécut le restant de sa vie avec les 2 autres. Les divorces étaient aisés. Si un homme désirait répudier sa femme, il le faisait lors d'une cérémonie qui avait reçu le nom de danse Omaha. L'époux en colère dansait seul, et avec un bâton qu'il tenait à la main, il avançait en direction d'un joueur de tambour et donnait sur l'instrument un coup violent. Il jetait le bâton en l'air ou vers la foule des hommes et criait « Voilà ce que ma femme devient, je la jette !» Qui ramasse ce bâton peut l'apprendre.
Les hommes esquivaient l'impact du bâton et se taquinaient éventuellement l'un l'autre en s'interpellant, en disant « J'ai cru te voir toucher ce bâton !» Vu l'importance que les Cheyennes prêtaient à l'opinion publique, la femme éprouvait une véritable humiliation à être traitée de la sorte. L'épouse, elle, pouvait rompre les liens de son mariage en retournant chez ses parents. En règle générale, les enfants l'accompagnaient. Si des parents généreux lui avaient donné des chevaux avant son mariage, elle en conservait la propriété et avait des droits sur la progéniture. Les crocs, eux, faisaient une nette distinction entre les biens du mari et ceux de l'épouse. Les fusils, les munitions, les arcs, les flèches et tout le matériel servant à la guerre ou à la chasse demeuraient la propriété de l'homme. Par contre, le tipi, les pots et les instruments de cuisine appartenaient exclusivement à la femme. Chacun des conjoints savait quels étaient leurs chevaux. Les époux étaient donc prêts à reprendre des chemins séparés. Lorsqu'il s'agissait d'acquérir par le négoce des objets nouveaux, l'homme souhaitait des biens qui lui reviendraient, et la femme pensait de même en ce qui la concernait. Elle triomphait d'ailleurs le plus souvent lorsqu'une tendre affection liait les conjoints. Pour peu qu'elle perdît du charme à ses yeux, l'époux serait peut-être plus tard amené à juger le divorce impossible. Sa femme étant en possession de la majorité des biens. La femme Cheyenne puisait un certain réconfort moral et physique à vivre sous les auspices de ses parents, en vertu d'une pratique habituelle chez les couples de cette tribu. Elle disposait donc d'un appui familial qui l'aidait et la défendait plus que l'époux ne le faisait. Par ailleurs, elle contribuait par son mariage au prestige social des siens et en tirait une autre source de puissance. Le foyer heureux possédait de nombreux chevaux. Le chef de famille était bon chasseur et avait acquis de nombreux honneurs à la guerre. Cependant, celle qui entretenait le logis devait être une bonne épouse et une excellente ménagère. Elle conservait par exemple de nombreux pare-flèches, ces sacs en cuir cru, garnis de viande séchée et d'autres provisions. Il lui fallait se montrer adroite dans la confection des vêtements et des équipements destinés aux chevaux, qui devaient être décorés avec art. La femme régnait sur les enfants, tenue de respecter leurs aînés et d'adopter le mode de vie des Cheyennes. Chez les Sioux, les questions d'étiquette au sein de la famille avaient une égale importance. Nuage Rouge, un chef Sioux, devint un des meilleurs tacticiens et un des plus grands stratèges des Indiens de l'Ouest, en même temps qu'un brillant diplomate lors des grands conseils avec les Blancs. Cependant, ses origines étaient modestes et les Sioux ne lui accordèrent jamais le respect auquel une meilleure naissance lui aurait donné droit. En règle générale, les femmes laissaient aux hommes le soin de partir à la guerre, mais elles défendaient éventuellement le camp. Parfois, elles accompagnaient les guerriers pour leur faire la cuisine et garder les chevaux, ou bien se rendaient sur un champ de bataille relativement proche pour dépouiller les morts et ramener du butin. Chez les Utes, les femmes participaient aux razzias, exécutaient une grande tenue leur propre danse de victoire. Le pas boitillant symbolisait leur retour au camp chargé des biens pris à l'ennemi. Dans les cas exceptionnels, les femmes firent preuve de vertus guerrières extraordinaires. Une certaine jeune fille de la tribu des Gros Ventres fut capturée par les Crocs alors qu'elle n'avait que 10 ans. Elle manifesta rapidement un amour réel pour les chevaux et les sports des garçons. Aussi les Crocs lui permirent-ils de s'occuper de leur monture et de pratiquer le tir à l'arc. La jeune fille grandit et devint une intrépide cavalière, une excellente chasseresse et un tireur d'élite. Et alors que la bande campait près d'un poste de troc, des Blackfeet, des pieds noirs, l'attaquèrent. Les crocs perdirent plusieurs hommes, mais réussirent à gagner le poste. Hors de portée de tir, cinq pieds noirs firent savoir par signaux qu'ils voulaient parlementer. Seule la fille de la tribu des gros ventes osa les rencontrer. Les cinq hommes l'attaquèrent. Elle en tua un au fusil et en blessa deux autres à coups de flèche. Les deux derniers s'enfuirent. Alors, des cris de félicitations saluèrent son retour au camp. Et à partir de ce jour-là, elle eut droit à l'appellation de femme chef. L'année suivante, elle partit avec un groupe de guerriers à l'attaque des Blackfeet, enfin des pieds noirs, et ramena 70 chevaux et 2 scalps. Les crocs l'autorisèrent désormais à s'asseoir avec les chefs dans les conseils de guerre. Elle eut l'occasion de conduire plus d'un raid et de défendre les terres des crocs, même contre les gros ventes qui avaient été les siens. Dans les cérémonies réservées aux guerriers, où les hommes retenaient l'attention et comptaient leurs prouesses, cette indienne pouvait évoquer plus de hauts faits que ses compagnons. Les crocs la tenaient en très grand respect et n'auraient pas voulu courtiser une femme aussi redoutable. Lorsque son père adoptif mourut, elle prit en main son foyer et sa famille. En guerrier et en chasseur consommé, elle exigeait que lui soient accordés les mêmes privilèges que les hommes, y compris ceux qui concernaient le mariage. En fin de compte, elle épousa 4 femmes, chargées de tanner ses peaux et de remplir les nombreuses besognes domestiques du logis. Il choisissait de travaux qui ne convenaient pas à un guerrier. Femme chef devint une légende vivante chez les crocs. En 1851, la tribu négocia une paix incertaine avec les gros ventres et 3 ans plus tard, elle se rendit en pèlerinage auprès d'eux. En reconnaissant celle qui les avait combattus pendant tant d'années, ils l'assassinèrent traîtreusement, sans comprendre qu'elle était venue rendre visite aux siens. Puisqu'au départ, elle faisait partie de ce peuple. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On retrouvera nos Indiens la semaine prochaine. En attendant, je vais dire au revoir et merci à Stéphane qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.